Les informations, Thomas Cluzel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Antoine Janton, bonsoir à toutes et à tous. Quand les scandales d'entente sur les prix s'enchaînent, notamment dans le secteur de l'agroalimentaire, c'est du moins ce qui apparaît avec la révélation d'un possible nouveau cartel, celui de la compote. Dans l'affaire de l'arbitrage contesté en faveur de Bernard Tapie dans son contentieux avec le Crédit Lyonnais, le tribunal a finalement relaxé ce matin l'homme d'affaires au pénal, lui qui avait pourtant été condamné au civil. La France va instaurer une écotaxe sur les billets d'avion à partir de 2020. Objectif, contribuer à hauteur de 180 millions d'euros au défi climatique. Enfin, nous irons en Sicile où l'ancien plus grand centre d'accueil de migrants en Europe a fermé officiellement ses portes aujourd'hui en présence de son plus grand détracteur, le ministre italien de l'Intérieur d'extrême droite, Matteo Salvini. Après les endives, la farine, les yaourts, le jambon et le poulet, vous pensiez sans doute être rassasié. Pourtant, il vous faudra peut-être aussi prendre un peu de compote au dessert. Selon le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, 4 ans après avoir été ouverte par l'autorité de la concurrence, l'enquête pour pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la compote devrait en effet connaître une nouvelle étape demain avec l'audition des industriels visés pour soupçons de cartel. Anne Lorchouin, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Alors, ces soupçons portent sur des réunions qui se seraient déroulées entre mi-2010 et fin 2013 entre plusieurs entreprises suspectées donc d'avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des fruits transformés en coupelles et en gourdes.
Oui, l'enquête a démarré en 2015 suite, comme c'est souvent le cas, à une demande de clémence. C'est cette procédure selon laquelle une entreprise se dénonce elle-même pour éviter d'avoir à payer le prix fort, en l'occurrence le groupe hollandais Coros. Les autres entreprises mises en cause, parmi lesquelles Materne et Andros, mais aussi Conserve France qui détient la marque Saint-Mamet, ou encore à nouveau le groupe Lactalis via sa marque Delis. Ces autres entreprises se sont vues proposer une transaction en 2018, soit la possibilité de payer une amende allégée de 10 à 20%, transaction refusée par la plupart de ces entreprises, d'où l'audition de demain. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que les discussions pointées du doigt entre tous ces acteurs de la compote ont eu lieu à un moment de crise où le prix de la pomme était au plus haut. Or, la hausse de la matière première reste toujours extrêmement difficile à répercuter auprès des acteurs de la grande distribution, secteur hyper concentré, d'où les critiques récurrentes à l'égard de l'autorité de la concurrence de la part du secteur agroalimentaire qui se plaint d'être régulièrement visé par des enquêtes alors que la structure de la distribution en France ne permet aucune souplesse. L'autorité fait valoir de son côté que le secteur de la grande distribution est lui aussi scruté. Isabelle Da Silva, la présidente de l'autorité de la concurrence.
Nous avons décidé d'ouvrir des enquêtes il y a quelques mois pour nous saisir de façon plus approfondie des grands rapprochements qui ont été annoncés et qui portent notamment aujourd'hui sur des marques de distributeurs ou des accords de distribution à l'international.
Et en effet, Casino, Auchan et Metro ont regroupé leurs centrales d'achat, tout comme Carrefour et Système U, deux énormes centrales désormais face à des milliers de fournisseurs potentiels. Un déséquilibre patent est désormais donc surveillé.
Merci Anne Lorchouin. Relax général. Ce matin, le tribunal correctionnel de Paris a décidé de blanchir totalement Bernard Tapie, de même que le PDG actuel d'Orange, Stéphane Richard, et 4 autres prévenus, tous jugés pour escroquerie dans l'affaire portant sur l'arbitrage du contentieux entre l'ancien patron d'Adidas et le Crédit Lyonnais. Arbitrage controversé qui avait octroyé 403 millions d'euros à l'homme d'affaires en 2008. Un jugement censé marquer donc l'épilogue de ce titanesque et non moins feuilletonesque dossier vieux de près d'un quart de siècle, même s'il est probable que le parquet de Paris, qui lui avait demandé des peines d'emprisonnement contre 5 des 6 prévenus, fera appel. Mais plus que tout, ce jugement aujourd'hui interroge. Pourquoi ? Parce que Bernard Tapie vient d'être relaxé donc au pénal, alors même qu'il avait été condamné au civil. Florence Thion, bonsoir.
Bonsoir.
Comment expliquer, Florence, qui apparaît pour le moins incohérent ?
L'expliquer, c'est difficile, mais effectivement, il faut revenir un peu en arrière et se rappeler que la justice civile s'est également penchée sur cette affaire, qu'elle a annulé l'arbitrage controversé en le considérant frauduleux et condamné Bernard Tapie à restituer les 403 millions d'euros qui lui avaient été octroyés. Décision définitive, car la Cour de cassation l'a confirmé en 2017. Aujourd'hui, le tribunal correctionnel souligne l'activisme de Bernard Tapie auprès du pouvoir politique, mais estime que la preuve d'une escroquerie n'est pas rapportée. Un jugement que l'avocat de la partie civile, Benoît Chabert, s'est gardé de commenter.
Le fait que Bernard Tapie, sur le plan civil, doit payer 402 millions d'euros, ça c'est définitif, ça n'a pas été qualifié de fraude pénale. Moi je pense que cette fraude civile est en effet et peut-être qualifié de fraude pénale. Le tribunal pense différemment. C'est le jeu de la justice.
De son côté, la défense salue la décision de ce matin comme un modèle d'indépendance judiciaire. Il faut dire que le tribunal a suivi les arguments d'Hervé Temim, l'avocat de Bernard Tapie.
Vous vous rendez compte que c'est au vu de procès-verbaux de ce dossier qu'un tribunal, qu'une cour d'appel civile a pu dire qu'il y avait eu une fraude, alors que le tribunal vient de dire expressément le contraire. Il n'y a aucune espèce de cohérence entre ces décisions civiles et la décision du tribunal. Et il n'y a pas de comparaison entre la qualité des débats qui ont eu lieu ici, du jugement qui vient d'être rendu, et la décision civile, certes définitive, qui fait en sorte qu'on a jugé qu'il y avait eu une fraude.
Et comment ne pas se rappeler également la décision rendue par la Cour de justice de la République fin 2016, Christine Lagarde, l'ancienne ministre de l'économie, reconnue coupable de négligence mais dispensée de peine. Cela dit, le dossier Tapie n'est pas pour autant définitivement clos. Il est probable, vous le disiez, que le parquet fasse appel et qu'il y ait un second procès.
Merci Florence Sturm. L'Assemblée nationale a voté aujourd'hui à une large majorité la proposition de loi contre la haine sur Internet. Censé responsabiliser les auteurs de messages, mais aussi les plateformes, au risque, selon ses détracteurs, de nuire au débat public. Concrètement, le texte prévoit de simplifier les procédures de signalement des contenus illicites via un bouton unique et la levée de l'anonymat des auteurs visés. De leur côté, les plateformes auront obligation de mettre en œuvre des moyens humains technologiques pour y répondre, et tout défaut de coopération attendu sous 7 jours pourra être sanctionné d'une amende. Et que dire à présent de la protection des informations personnelles en ligne des citoyens? C'est l'autre sujet souvent conflictuel touchant les enfants terribles de la mondialisation. Comprenez les géants du web, protègent-ils suffisamment les données personnelles de leurs utilisateurs? C'est en tous les cas la question à laquelle devra répondre la Cour européenne de justice lors d'un procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Luxembourg après la plainte déposée contre Facebook par un activiste autrichien militant pour la protection de la vie privée. Son portrait est signé de notre correspondante à Vienne, Isorias.
Infatigable, le militant autrichien de 31 ans est devenu en quelques années l'ennemi numéro 1 des géants du web. Premier coup d'éclat en 2011, alors étudiant en droit, Max Schrems demande à Facebook une copie de ses données personnelles et découvre avec stupeur dans le dossier de 1200 pages qu'il reçoit sur CD des informations qu'il avait pourtant supprimées de son compte. Il dépose donc 22 plaintes contre le réseau social auprès de l'autorité de protection de la vie privée irlandaise, le siège européen de Facebook se trouvant à Dublin. Cela le propulse au rang d'icône de l'Internet libre, mais le juriste viennois n'en reste pas là. Après les révélations d'Edward Snowden en 2013 sur la surveillance électronique américaine, Max Schrems porte plainte contre plusieurs grands groupes américains, dont Facebook. La procédure débouche en 2015 sur l'invalidation par la justice européenne de l'accord Safe Harbor, qui encadrait le transfert de données personnelles des Européens vers les États-Unis. Une victoire pour Max Schrems, mais il le sait, le combat est loin d'être terminé. Voilà pourquoi il a créé fin 2017 sa propre association, baptisée None of Your Business, Pas Tes Affaires, qui compte bien profiter d'une nouvelle arme, le RGPD, le règlement européen sur la protection des données personnelles, entré en vigueur il y a un an.
C'est un appel qui avait été assez largement relayé sur les réseaux sociaux. Le mouvement La Honte de prendre l'avion parti de Suède incitait à privilégier d'autres moyens de transport pour répondre à l'urgence climatique. Et depuis, pour répondre à ces appels au boycott de l'avion, eh bien la piste d'une taxe sur le kérosène avait été envisagée. Sauf qu'à l'époque, le gouvernement français avait renvoyé le sujet à l'échelle européenne en vain. Aussi ce matin, le même gouvernement a-t-il finalement décidé seul de mettre à contribution les transports à la fois aériens mais aussi routiers, avec la mise en place d'une écotaxe sur les billets d'avion et d'une réduction de l'avantage fiscal sur le gazole pour les poids lourds. Alors s'agissant du transport aérien, cette éco-contribution de 3 à 18 euros sur les billets sera mise en place à partir de 2020 pour tous les vols au départ de la France, à l'exception de ceux à destination de la Corse et de l'Outre-mer, de même que les vols en correspondance. Une annonce assez froidement accueillie par le secteur. Air France notamment, dont l'État contrôle plus de 14% du capital, a qualifié la décision gouvernementale d'incompréhensible. Quoi qu'il en soit, la pollution des avions représente actuellement environ 2% à l'échelle mondiale. C'est dire si l'enjeu est aujourd'hui considérable, d'autant que le trafic est amené à doubler dans les 20 prochaines années. Les précisions de Hakim Kasmi.
Aujourd'hui, si les constructeurs travaillent bien sur l'électrification pour réduire la pollution des avions, les technologies ne sont pas encore matures. Pour des avions commerciaux de 150 places, type Airbus A320, l'avenir proche, c'est l'hybride qui doit permettre de réduire la pollution d'environ 15%. Du coup, l'écotaxe ne passe pas du tout pour les compagnies aériennes qui estiment déjà en payer beaucoup trop. Pour Air France, l'écotaxe représenterait 60 millions d'euros par an. Air France, qui a déjà perdu l'année dernière 200 millions d'euros sur son trafic intérieur, estime que la décision du gouvernement est déloyale car elle va surtout favoriser le trafic ferroviaire. Le TGV a déjà fait perdre de nombreuses parts de marché à Air France, notamment sur les liaisons Paris-Bordeaux et Paris-Marseille, ce qui s'est déjà traduit par des centaines de suppressions de postes sur les vols intérieurs. Mais il ne faut pas oublier qu'au final, ce sont les passagers qui paieront cette taxe qui ira de 3 à 18 euros.
Après que le président américain Donald Trump a une nouvelle fois dénoncé hier l'accord de Paris sur le climat qu'il a jugé inefficace, injuste et très coûteux, la guerre des mots s'est poursuivie aujourd'hui sur un autre terrain aride lui aussi depuis la publication de câbles diplomatiques dans lesquels l'ambassadeur britannique aux États-Unis qualifie le locataire de la Maison Blanche d'incompétent. Ce matin, le président américain a traité le diplomate de type très stupide tout en réitérant ses attaques contre la première ministre Theresa May. Enfin, s'agissant toujours du Royaume-Uni, le chef du Labour a mis au défi aujourd'hui le futur Premier ministre conservateur d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit, affirmant qu'il militerait pour sa part pour rester dans l'Union européenne. Si en ce mois de juillet, la saison balnéaire bat déjà son plein sur les rivages de la Méditerranée, la ligne d'horizon n'en reste pas moins troublée ces derniers jours par de fragiles embarcations quand ce n'est pas la mer elle-même qui vient directement rejeter sur les plages les corps de ceux qui voulaient gagner l'autre continent. Des bateaux qui sauvent des migrants en détresse et dont personne ne veut s'occuper, c'est là l'impossible quotidien aujourd'hui de l'Europe. Ce matin encore, le navire d'une ONG allemande, Alan Cordy, a secouru 44 nouveaux migrants au large de la Libye que Malte a accepté de prendre en charge. Et avant l'aube, 47 autres avaient eux débarqué sur le sol italien. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 3000 migrants qui ont débarqué en Italie, un chiffre qui ne devrait pas désamplifier puisqu'en ce début d'été, les traversées des candidats à l'immigration ont même repris de l'ampleur. Mais surtout, sur ces 3000 migrants, seuls 300 d'entre eux ont été conduits à terre par les navires des associations humanitaires, ceux-là même auxquels Matteo Salvini a déjà fermé les ports de la péninsule. Et c'est la raison pour laquelle Rome souhaiterait à présent réduire le nombre de traversées en s'appuyant davantage encore sur les autorités de Tripoli, par exemple, en fournissant des bateaux supplémentaires aux gardes-côtes libyens afin de leur permettre d'intervenir avant que les bateaux de migrants n'atteignent les eaux internationales. Une manière pour le patron de la Ligue italienne d'extrême droite d'appuyer vis-à-vis de son électorat sa posture de fermeté à l'égard des réfugiés, quand bien même les chiffres parlent d'eux-mêmes, sa méthode ne résout aucun problème. Et puis c'est également le sens de sa visite aujourd'hui à Mineo en Sicile pour acter officiellement la fermeture de l'ancien plus grand centre d'accueil de migrants en Europe. C'est un reportage de notre correspondante Mathilde Imberti.
Les derniers demandeurs d'asile ont été évacués le 2 juillet, il y a une semaine, pour faire place à cette visite officielle de Matteo Salvini. Mineo, ce sont des pavillons de couleur vive qui initialement devaient servir aux militaires américains de la base toute proche. Des pavillons qui finalement étaient surpeuplés, placés au milieu de collines désertiques. Et c'est sous une température de 45 degrés que le ministre de l'Intérieur est venu se féliciter de la fermeture de l'ancien plus grand centre de demandeurs d'asile en Europe.
C'est un centre qui a accueilli jusqu'à 4000 personnes par le passé. Nous avons réduit ce nombre petit à petit et aujourd'hui, c'est zéro. Le résultat, c'est une tranquillité pour ce territoire. C'est une nouvelle promesse tenue. Naturellement, j'étais un des seuls à croire que l'on réussirait à fermer ce centre. Mais vous voyez, nous fermons tous ces grands centres en Italie qui étaient autant de sous gaspillés.
Le ministre Salvini parle de tranquillité. Mineo a en effet défrayé la chronique avec un meurtre à l'intérieur du centre, une femme tuée par son compagnon, des conflits sporadiques, des deals variés. Il était devenu ingérable, racontent ceux qui y travaillaient. Mais tout cela aurait pu bien se passer avec une vraie politique d'intégration, argumente Cécile. Très opposés à la vision de leur ministre de l'Intérieur. Une manifestation d'ailleurs avait lieu en marge de la visite de Matteo Salvini et un cortège a également réuni les travailleurs qui se retrouvent sans emploi avec la fermeture de ce centre. 400 licenciements, détaille la CGIL et le principal syndicat italien. Voici la réponse du ministre.
Ragioneremo per dar loro un futuro. Il futuro della Sicilia e dell'Italia non è l'immigrazione. Fossi nella CGIL mi occuperei di sviluppare altri settori economici che non il filone dell'immigrazione di massa.
Matteo Salvini reparti sous une chaleur de plomb à Rome après une heure et demie de visite à Mineo et sans faire un seul selfie, ce qui est rare, il n'était pas en territoire ami.
Le mandat du président algérien par intérim Abdelkader Ben Salah est arrivé officiellement à expiration aujourd'hui. Alors anticipant cette échéance, le Conseil constitutionnel a certes prolongé de facto l'intérim de l'actuel chef de l'État jusqu'à la tenue de l'élection présidentielle. Reste que cette décision est aujourd'hui décriée, y compris par certains juristes qui n'hésitent pas à la qualifier de coup de force. On termine avec un mot de météo. Demain, le temps sera ensoleillé partout avec une nette amélioration au sud. Quant aux températures, elles varient entre 6 et 24 degrés. matin jusqu'à 34 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Benjamin Ducy. Et à 22h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.